Il aurait été plus logique que j'intervienne hier au moment de l'ouverture, mais si je n'ai pas pu le faire, c'est parce que j'étais retenu par une cérémonie en Sorbonne qui était la première remise, cérémonie amicale des doctorats d'Université Sorbonne Paris Cité à quelques centaines de docteurs, nouveaux docteurs, et donc je ne pouvais pas être présent à deux endroits à la fois. Une anecdote d'ailleurs qui a un rapport avec les petites complications d'aujourd'hui. Cette cérémonie était initialement prévue en mars. Nous avons dû la reporter puisqu'il y avait des menaces d'envahissement de la Sorbonne ce jour-là. Nous sommes tombés sur un autre jour qui était hier où la Sorbonne était extrêmement calme, d'autant plus calme que les moyens de transport eux-mêmes étaient un peu comme aujourd'hui ankylosés. Et donc ça nous a légèrement perturbés. Voilà, ce qui prouve que bien que nous soyons une université puissante et importante, nous sommes dans la vraie vie, tributaire de tout ce qui se passe dans la vie sociale. J'ai dit un mot sur USPC, un mot sur le processus de création, puisque c'est le thème de l'après-midi. Donc l'Université Sorbonne Paris Cité, la Sorbonne, comme je l'ai expliqué hier dans le grand amphithéâtre, n'a jamais existé comme université, quoi qu'on le pense, quoi qu'on en dise. Ce qui a existé pendant longtemps dans une espèce de fiction juridique, c'est l'Université de Paris, dans un bâtiment qui a été construit puis reconstruit, dont on connaît le monument actuel, qui est un triomphe rendu par la Troisième République au savoir et à la connaissance. Mais c'est ce bâtiment qui s'appelle Sorbonne, c'est pas une institution. Même si, vu de l'étranger, on a tendance à confondre institution et bâtiment, ce qui prouve l'importance de la création architecturale dans la vie sociale. Si je signale ça, c'est que nous sommes, d'une certaine façon, avec d'autres, héritiers de cette longue histoire des universités de Paris, à ceci près qu'il y a eu différents événements historiques sur lesquels je ne vais pas m'apesantir. 1896, une grande loi sur les universités, qui est un échec en réalité pour ceux qui essaient de constituer en France des universités analogues aux grandes universités allemandes, ce qui prouve que le processus de création intellectuelle visant à mettre en place des institutions est un processus délicat. Déjà dès le 19e siècle. Et puis ensuite, tout ça subsiste et s'ossifie jusqu'en 1968, où les événements sociaux importants, plus importants que ceux qu'on connaît depuis quelques semaines, finissent par faire tout craquer, et où le génie d'un homme politique, Edgar Faure, réussit à reconstruire un système qui est le système dans lequel nous vivons depuis presque 50 ans, avec des particularités Île-de-France et parisiennes très fortes, liées au fait qu'à l'époque, et d'une certaine façon encore aujourd'hui, il y a des limites à la pensée créatrice, et en tout cas à l'époque, la limite était très clairement exprimée, il ne fallait pas d'université qui dépasse 15 000 étudiants. 10 entre 15 000 était le bon chiffre. On peut reconnaître dans ces chiffres limités certainement une forme d'angoisse en 1968 de voir se constituer dans Paris des universités rassemblant un très grand nombre d'étudiants. Les étudiants avaient une expression forte à l'époque, ils l'ont encore aujourd'hui, mais peut-être de nature différente. Mais on peut aussi voir le peu de confiance que le monde français, de façon générale, fait au système universitaire où, parmi les idées reçues, il y a l'idée que ce qui est petit est forcément meilleur que ce qui est gros. Je ne dis pas que le contraire est vrai ou systématiquement, mais je dis qu'en tout cas, l'hypothèse que le contraire puisse être vrai mérite au moins d'être examinée. Tout ça pour dire que depuis une dizaine d'années, dans des mouvements assez complexes, devant cette dispersion universitaire d'Île-de-France, où on a certes une capitale mondiale d'une très grande importance, il y aura bientôt une conférence sur les villes-mondes, vous connaissez l'oratrice et ses capacités de définir les grandes fonctions des villes-mondes, et dans ces grandes fonctions, le savoir et les fonctions universitaires sont très importantes, mais quand même, nous avons beau être une très grande ville-monde, d'avoir 17 universités et une trentaine d'établissements d'enseignement supérieur qui font en même temps de la recherche, c'est peut-être une richesse excessive. Le résultat, c'est que nous essayons, moi, d'autres, de procéder à des formes de regroupement et nous avons l'ambition de créer ce qu'on appelle vraiment une université, et en l'occurrence pour nous, Université Sorbonne Paris Cité, une université complète au sens de la diversité des savoirs, pas tout à fait, il nous manque la théologie, mais ça nous sommes conformes à une tradition française dont la seule exception est dans l'Est, et l'agriculture, ça c'est, il y a l'agriculture à Paris, mais elle n'est pas chez nous. Mais nous avons effectivement la totalité des autres champs de connaissances, de la médecine, de la santé, des sciences humaines et sociales dans leur grande diversité, des sciences exactes, mathématiques, physique, chimie, etc. Voilà, je reviendrai brièvement sur ce que ça veut dire en termes de création, parce qu'il me semble que c'est aussi un élément de création. Je terminerai, au-delà de cette présentation et des remerciements, évidemment, au-delà des organisateurs, sur deux remarques plus personnelles. Je suis professionnellement un mathématicien, et donc je ne fais plus beaucoup de mathématiques aujourd'hui, je dois bien le dire, mais j'ai passé quand même plusieurs dizaines d'années à réfléchir aux mathématiques, à même démontrer des théorèmes et même parfois à les publier, et donc en me sentant engagé dans un processus de création. J'ai pas une pratique musicale, je suis désolé de dire ça, dans un endroit consacré à la musique véritable, donc je suis à peine un amateur éclairé. En revanche, j'ai une grande passion pour les arts plastiques, plusieurs formes. Tout ça pour dire que dans le processus créateur, les scientifiques font partie des gens qui sont des créateurs. Les scientifiques aussi. Les mathématiques, savoir si les mathématiques est une science ou pas, est un grand sujet de discussion, depuis Platon au moins, mais c'est une science un peu particulière. Et donc, dans ce processus, le moment où on découvre quelque chose, je le disais hier devant les docteurs qui avaient travaillé sur les disciplines variées pour arriver à leur thèse, est un moment jubilatoire, un moment difficile, parce qu'en général, on vole d'impasse en impasse avant de trouver quelque part, peut-être, une petite lumière qui nous guide, pas nécessairement d'ailleurs à l'endroit qu'on recherchait, mais à un autre où on trouve quelque chose, où on pense avoir trouvé. La difficulté quand même, et tout particulièrement pour les mathématiques extrêmement avancées, c'est que pour comprendre ce que ça peut représenter comme émotion esthétique, et vraiment ça représente une émotion esthétique puissante, il faut faire partie du petit club très limité qui comprend ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et donc, on a beau être engagés les uns et les autres dans des actions d'explication, de communication, de présentation de l'importance des sciences, on fait partie du club ou on n'en fait pas partie. Et le club est fractionné, je n'arrive pas à comprendre, moi, les émotions esthétiques d'un mathématicien qui fait des statistiques. J'ai aucune émotion devant les statistiques. Mon domaine, c'est la géométrie, je suis très ému par la géométrie ou l'arithmétique, pas du tout par d'autres branches des mathématiques. Si je dis ça, évidemment, c'est que dans le domaine des arts, qu'il s'agisse des arts plastiques ou des arts musicaux, de la création, cette émotion se partage beaucoup plus. Et c'est un grand privilège que ces arts ont sur la science, et je voulais le souligner. Bien entendu, je ne sous-estime pas la forme d'émotion, la forme de compréhension que peut avoir le technicien, le spécialiste, en reconnaissant dans l'autre qui est en train d'exécuter un morceau, ou dans le compositeur, la patte, la finesse du spécialiste. Mais là, je parle vraiment d'émotion dans un sens plus brutal, et pas simplement l'admiration devant la très haute technicité et la très haute intelligence de celui qui a trouvé. Voilà. Et le deuxième point, qui est peut-être plus surprenant, et ce qui sera ma conclusion, depuis quelque temps, je suis dans des fonctions de responsabilité dans l'enseignement supérieur, dans des fonctions assez importantes et variées, et je conçois ces fonctions comme des fonctions de création, c'est-à-dire fondamentalement ce que j'essaie de faire, j'ai réussi parfois et je rate assez souvent aussi, c'est de créer des espaces sociaux dans lesquels les activités d'enseignement supérieur et de recherche puissent se déployer avec la liberté qui leur est nécessaire. La liberté, ça se traduit par une liberté intellectuelle, ça se traduit par des capacités d'avoir de l'argent, ça se traduit par une certaine puissance qui doit imposer le respect aux différents partenaires. Et créer ces espaces, c'est un travail de création institutionnelle. D'habitude, dans le milieu que je fréquente, les institutions sont vues comme des monstres bureaucratiques qui empêchent toute initiative intelligente. Je fais partie de ceux qui pensent que, bien entendu, les institutions peuvent s'incarner dans des monstres bureaucratiques, et j'ai des exemples infinis à montrer de ce type-là, mais elles donnent aussi des espaces de liberté sociale qui sont absolument nécessaires et indispensables pour ces capacités d'innovation. J'aime pas trop le mot innovation, par ces capacités de création personnelle, individuelle, collective. Mais ces institutions ne sont pas données par l'espace naturel, ne sont pas résultantes ni des dieux, ni des traditions, en tout cas pas que des traditions. Voilà. Et donc cette création intellectuelle, cette création d'institutions nouvelles ou de transformation des institutions est aussi un élément d'un processus créatif, je voulais le souligner. Je sors d'un dispositif un peu accablant d'un concours international, enfin en tout cas avec un jury dit international, où on nous a demandé de montrer qu'on était capable d'avoir une vision. C'est toujours agréable d'avoir une vision. Je fais partie des gens qui cherchent des visions et qui en trouvent parfois. Ils ont demandé aussi de définir des trajectoires, des jalons. Voilà, un langage qui est le langage de l'ingénieur. Et en même temps que je remplissais des documents qui étaient extrêmement formatés, là on retrouve la capacité bureaucratique qui n'est pas que nationale, qui fait aussi honneur aux jurys internationaux qui nous regardent, je me disais quand même que le véritable travail que j'étais en train de faire relevait moins du travail de l'ingénieur que du travail de bricoleur, ce qui m'a amené à relire La pensée sauvage de Lévi-Strauss et à voir de quelle façon la pensée sauvage était nécessaire dans le monde moderne dans lequel nous vivons, parce que je pense vraiment que pour penser librement, il faut penser sauvagement, et pour créer réellement, il faut créer autrement que par jalon et trajectoire et par une espèce de vision mécanique de ce que nous sommes en train de faire. Ce qui explique probablement d'ailleurs que nous ayons été rejetés par le jury en question. Voilà, merci de votre patience et bonne suite.
Je vais vous proposer quelque chose comme une pause musicale, à ceci près qu'elle sera en prose. Un texte intitulé « La nuit sera blanche et noire » et dont le titre évidemment est emprunté à Gérard de Nerval. C'est une espèce de rêverie critique, je dirais, sur le regard que la poésie, ou sur les regards que la poésie pose sur la musique. Elle est au piano, comme jamais elle ne sera à moi. Elle joue, le dos tourné, en face d'un miroir noir où ses cheveux sont d'or. Son visage y fait une tache claire. Une large double feuille ouverte, un peu jaunie, absorbe son regard. Je ne comprends rien à sa lecture. Fermer les yeux, tendre l'oreille, j'ignore tout de son silence à elle quand ses mains vont sur le clavier. J'ignore cette langue qu'elle ne parle pas, mais qui lui court par les épaules, de l'œil jusqu'au bout des doigts. Blanche ou noire sont les touches, noires encore les portées sur la page blanche. L'homme poursuit noir sur blanc, observait Mallarmé. La musique, en effet, est séparée de la couleur par autant de nuit que le poème. Je suis à ma table. Vieille histoire de pages blanches, de plumes d'or et de signes sombres. Avec le temps, le paysage derrière la fenêtre a changé. C'est vers un autre petit jardin que mes regards s'enfuient parfois. Mais j'écris toujours sur un carnet noir. Phrasé lyrique. Une certaine façon d'entrer dans la danse sur un air de jadis. Comme tourner vers l'arrière. En prêtant voix à l'écho que la langue même éveille. Plutôt qu'en affrontant directement les choses avec des mots qui les désignent. L'expression lyrique se répand par propagation. Elle dérive parmi des voix anciennes et réveille de belles endormies. Rien n'est plus cher au poète que l'idée d'un toucher qui réveille, ainsi que le baiser des anciens contes. Celui de la plume sur le papier ranime bien davantage que de très anciens souvenirs. La chaleur douce de main perdue. Pendant que je m'égare en indéfinie chercherie, au piano elle enchante. Peu importe que ce soit tristesse ou joie, douceur ou furie, ce toucher-là joue sur les cordes du grand animal noir, lointain et silencieux que nous avons au cœur. Elle déchiffre, lèvres fermées, ce poème même qui chante en moi mais que je ne puis noter. Plus que les sonorités de la musique, son silence m'obsède. Qu'elle existe ainsi, dans un corps de femme, avec un mutisme obstiné, bouche serrée, langue nouée, comme n'écoutant plus que le sang qui circule dans ses veines, ou la sève invisible de l'arbre qui s'est dressé dans son oreille, et qu'elle exprime telle tension d'âme en se passant des mots. Je rêve parfois d'une écriture autre, dont ni la poésie ni la musique ne seraient le modèle. Une écriture de pas sur la neige, trace à peine, blanc sur blanc, et qu'aurait laissé, plutôt que le labeur des signes, la course légère ou le passage pesant d'un corps, sa précipitation enfantine ou sa vieille fatigue, comme dans un lit l'empreinte de son insomnie ou de son sommeil, et celle plus invisible encore de ses rêves. Comme pour tailler la pierre ou le bois, moudre le grain, coudre le fil, et toutes les espèces de travaux humains, pour l'infini aussi l'homme a des gestes. Ce sont ses mains qui s'en occupent, et pas seulement lorsqu'elles se joignent, allant sur des touches ou des cordes, rendant un son très singulier. Avec quels mots dire la musique? Telle est la question toujours posée. La musique affole ou fait taire la parole. Raisonner plus loin que tout raisonnement est sa raison d'être. Faire entendre autre chose et tout autrement que ce que la parole donne à comprendre. Désireux que la musique rivalise, que la poésie rivalise avec la musique en sa prétention au mystère, Mallarmé s'y essaie. Et c'est alors comme le spectacle d'un effort désespérant de l'esprit que son désir le conduit à métaphoriser. Je le cite. Les déchirures suprêmes instrumentales, conséquences d'enroulement transitoire, éclatent plus véridiques, à même en argumentation de lumière, qu'aucun raisonnement tenu jamais. Quelle est cette argumentation de lumière? Ou ce lever d'un astre sombre enfin contemplé avec joie et terreur par un esprit qui désespère de l'absolu? Que sont les falaises vierges de toute existence dont il invente la surrection? Des chimères météorologiques? Des oxymores pour faire silence, des soupirs? Mallarmé, on le sait, ne se résigne pas. Le 10 janvier 1893, il écrit avec fermeté à Edmund Goss, je le cite, « Je fais de la musique et appelle ainsi non celle qu'on peut tirer du rapprochement euphonique des mots, cette première condition va de soi, mais de l'au-delà magiquement produit par certaines dispositions de la parole, où celle-ci ne reste qu'à l'état de moyen de communication matérielle avec le lecteur, comme les touches du piano. Vraiment, entre les lignes et au-dessus du regard, cela se passe en toute pureté, sans l'entremise de cordes à boyaux et de pistons comme à l'orchestre, qui est déjà industriel. Mais c'est la même chose que l'orchestre, sauf que littérairement ou silencieusement. » Fin de citation. Cet au-delà magiquement produit par certaines dispositions de la parole, que Mallarmé jusqu'en ses vers appelle musique, se donne à percevoir entre les lignes et au-dessus du regard, en toute pureté, c'est-à-dire dans l'oubli même des phrases et de leur sens. Lorsque les mots, redevenus pareils aux touches de quelques pianos, donnent à entendre plutôt qu'à comprendre, il faut que leur sens brûle sous les doigts du poète. Peut-être convient-il d'imaginer un œil capable de voir la musique quand elle s'enlève dans l'espace, invisible et très pur, ou de songer à une oreille qui saurait la contempler comme on contemple un paysage ou un tableau. Et que dire du regard de ceux qui sont là, attentifs et silencieux, venus pour écouter dans une église ou dans une salle de concert? Ils semblent considérer le jeu du pianiste ou du violoniste, mais que regardent-ils en vérité? Sinon ce qu'ils ne peuvent voir, comme lorsque sur la plage leurs yeux se posent longuement sur la mer. Il m'importe que la musique continue de montrer à la poésie ce qu'elle n'est pas, qu'elle lui désigne un point improbable vers lequel elle ne peut que tendre, qu'elle veille ainsi sur son désir, son insatisfaction, peut-être sa plus profonde douleur qui serait de n'être faite après tout que de mots. Le poème n'existe comme tel que de se tourner vers l'ineffable, l'impossible qui lui coupe le souffle et son oxygène. C'est en ce sens, me semble-t-il, que Paul Valéry put rêver de poésie pure. Je le cite, « Il ne s'agissait dans ma pensée que de désigner une tendance vers la limite d'un art, limite impossible à rejoindre par les moyens du langage, mais dont l'idée et le désir sont essentiels à toute entreprise de poésie. Celui que la poésie n'intéresse pas comme une sorte d'instinct de rossignol, mais comme une construction bien définie, valant par ses charmes et susceptible de produire un enchantement, regrette que des associations parasites s'accrochent à chaque mot et qu'il ne soit pas permis au poète de véritablement composer. Composer, ce serait procéder par constituants indépendants groupés selon des lois formelles subtiles. Paul Valéry rêve d'un poème où se retrouverait quelque chose des divisions savantes d'un orchestre. Si ce n'est M. Test en personne, un autre héros valérien, Gladiator, serait le chef de cet orchestre. Celui qui possède le langage et qui a su dresser la bête de son esprit afin de le conduire où il veut. À la fois sportif de l'intelligence et philosophe du jeu, athlète et acrobate intellectuel, il multiplie les exercices comme il ferait des gammes pour que sa pensée manœuvre jusque vers ses points les plus purs, qui sont aussi ceux du rendement le plus élevé. Pur, l'esprit, la raison, les formes souveraines, les séparations redoutables. Impur, les conduites, les affaires humaines mélangées d'intérêts et de désirs. Pur, les combinaisons de la géométrie et des mathématiques. Impur, le provisoire et le confus, notre vie contingente, tout à la fois répétitive et accidentée dans le temps. Désir de Paul Valéry n'existait qu'à l'état naissant. Pouvoir plutôt qu'être. Dire « je puis » plutôt que « je suis ». Tendre à se faire « moi pur ». Une créature d'appareillage et de préparatif, exerçant en vue du rien qui est la vérité ses facultés les plus audacieuses, appliquées méthodiquement à dépister dans l'esprit les effets d'induction et de résonance, ces moments où la poésie aime à se mélanger avec le sentiment pour produire de l'incohérence et de la confusion. Il dédaigne ce qu'il appelle nos parties faibles, en premier lieu le cœur, qui n'est guère pour lui qu'un sournois viscère rouge aux raisons indésirables. Edgar Poe avait ouvert la voie, mais c'est avec Baudelaire que la poésie a commencé de se prétendre pure, de s'isoler définitivement de toute autre essence qu'elle-même, et de se préoccuper seule de sa propre perfection, afin de reprendre à la musique le bien qu'en son âge romantique celle-ci lui avait dérobé. Charles Baudelaire, pourtant, voit se lézarder l'ancienne figure du poète musicien, hérité de l'Orphée charmeur. Ni lyre, ni cithare, mais un son de cloche fêlée. Page et clavier commencent de s'éloigner l'un de l'autre. Il n'est alors plus question pour quiconque d'être le vers personnellement, à la façon du Père Hugo, ni de chanter comme lui d'inspiration. Celui qui porte la livrée de la désolation ne saurait être poète que par instant, et de plus en plus rare, par éclipse ou de mémoire, c'est-à-dire par le souvenir qu'il conserve de ce que fut la poésie. Il ne formulera plus que par fragments son idée du lyrisme et du chant. Tel un homme qui se châtirait lui-même, il n'est qu'un faux accord dans la divine symphonie, porteur de discorde et fauteur de trouble, impur et se connaissant tel, tout le contraire des belles âmes de jadis, dont la beauté et la bonté garantissaient l'inspiration et les chants mélodieux. Il a le goût des instruments discordants, tel cet orgue de barbarie joyeusement vulgaire qui semble destiné à la tristesse des rues. On dirait que ces ritournelles banales et surannées ont été composées exprès pour faire pleurer. Ce sont comme les voix mécaniques des morts et de leurs souvenirs. Musique d'aucun clavier, d'aucune main et d'aucun archet. Seul le temps tourne la manivelle. Peut-être Charles Baudelaire a-t-il tout simplement découvert au vif de la poésie même l'existence du temps. Rongé par le prosaïque, son écriture n'y échappe plus, tandis que dans ses vers s'éloigne la musique. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur. Il ne subsiste plus du chant et du voyage que l'humeur vagabonde. La poésie regarde les grands bateaux à voile dormir ou s'en aller. Elle n'embarquera plus. Elle n'est plus qu'un vaisseau qui souffre, tirant en vain sur ses amarres. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué? Dans une onde mauvaise à boire, avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? C'est dans les romances d'Apollinaire, plutôt que dans les vers anciens de Paul Valéry ou dans les prouesses syntaxiques de Stéphane Mallarmé que se réconcilient pour moi musique et poésie. Autant dire dans l'heureuse ou mélancolique impureté d'un chant qui n'essaierait plus d'échapper au temps. Inhumaine est la pureté qui prétend à l'absolu et toujours se situe au-delà du vivant, hors du temps réellement vécu. À la façon des héros, des martyrs ou des saints, il semble que l'on ne puisse y accéder qu'en brûlant sa propre vie. « Le troupeau des ponts bêle ce matin », écrit Apollinaire dans Zone. J'aime à entendre, dans les poèmes d'Apollinaire, la musique de ces temps modernes dont Baudelaire fut le premier piéton lyrique, mais que sillonnent à présent quelques aéroplanes, automobiles nouvelles, ou belle sténodactylographe. Le matin, par trois fois, la sirène y gémit, une cloche rageuse y aboie vers midi, les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis, à la façon des perroquets criaillent. Ivre du djinn flambant de l'électricité, telle est la musique de la vie moderne et variable. D'aucuns volontiers la diront impure à cause de ses stridences. Lorsqu'elle mugit, grince ou fredonne, on ne sait plus très bien s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Le poète est pour les humeurs et les mouvements du monde une sorte de douanier qui se prénomme Guillaume ou Henri et porte sur l'épaule un tout petit oiseau. La tête dans les nuages, il travaille à l'octroi, pont Mirabeau ou du carrousel, au-dessus d'une eau qui serait musique. Il contrôle aux frontières des temps passés et à venir ces curieux émigrants que leur chagrin d'amour pousse à partir très loin à cause d'une sorcière blonde aux yeux couleur de rein. La musique a depuis longtemps troué son cœur, mais il a la fièvre et chante encore. Va-t'en, l'or en folie. Va, l'or aux yeux tremblants, tu seras une nonne vêtue de noir et blanc. Je vous remercie.